Chapitre 24. L'objet. Dans la cuisine, un homme vêtu d'un jean et d'un blazer beige, agrémenté de pièces en cuir sur les coudes, passe la main sur sa moustache blonde et parle d'une voix forte en désignant le micro-ondes. Yona pénètre dans la pièce. Un technicien portant un masque et des gants de protection emballe la bombe insecticide déformée dans un sachet en papier. Il replie deux fois l'ouverture sur elle-même, ferme le sachet avec du scotch et le marque.
« Vous êtes Yona Lina, n'est-ce pas ?» dit l'homme à la moustache blonde. « Si vous êtes aussi fort que tout le monde le dit, vous devriez venir chez nous. »
Il se serre la main.
« Göran Stone, c'est Po, » dit l'homme d'un air satisfait.
« C'est vous qui dirigez l'enquête préliminaire ?»«
Oui. Enfin, formellement, c'est Saga Bauer, statistique oblige, » ricane-t-il.
« Je l'ai déjà rencontrée. Elle semble bien capable de... »«
N'est-ce pas ?»
l'interrompt Göran Stone en riant à gorge déployée, avant de se couvrir la bouche d'une main. Yona regarde par la fenêtre. Il essaie de comprendre qui l'assassin avait pour mission de liquider à bord du bateau retrouvé à la dérive. Il sait bien qu'il serait prématuré de tirer une quelconque conclusion à ce stade de l'enquête, mais c'est toujours bien d'établir des hypothèses à partir d'un déroulement probable. Selon toute vraisemblance, Pénélope était la seule visée, et comme il n'avait pas pu prédire qu'elle serait du voyage, la seule qui ne l'intéressait pas était Viola. Sa présence était le fruit d'un malheureux hasard, se dit Yona en quittant la cuisine pour rejoindre la chambre à coucher. Le lit est fait. Aucun pli ne vient marquer le dessus de lit couleur crème. Saga Bauer, de la CEPO, se tient devant un ordinateur portable qu'elle a posé dans l'encadrement de la fenêtre. Elle est au téléphone. Yona se souvient de l'avoir vue à un séminaire sur l'antiterrorisme. Yona s'installe sur le lit et tente à nouveau d'articuler sa pensée. Dans son imagination, il place Viola et Pénélope devant lui, puis Björn, le petit ami. Ils n'ont pas tous pu se trouver sur le bateau au moment où Viola était assassinée. Si c'était le cas, le meurtrier n'aurait pas commis d'erreur. S'il avait abordé le bateau au large, il les aurait tués tous les trois, les aurait installés sur leurs lits respectifs et aurait fait couler le bateau. Cette erreur sur l'identité de la victime exclut la présence de Pénélope sur le bateau. Ils ont donc dû accoster quelque part. Yona se lève, quitte la chambre et se rend au salon télé. Il laisse son regard glisser sur l'écran suspendu au mur, le canapé et une couverture rouge, la table moderne recouverte de piles de la revue Hortfront et du journal Exit. Il s'approche de la bibliothèque qui longe l'un des murs, s'arrête en repensant au fait que les câbles dans la salle des machines du bateau avaient été endommagés à la suite d'une forte pression et que cela aurait pu produire un arc électrique en quelques minutes. Il y avait également le rembourrage d'un coussin qui pouvait s'enflammer à tout moment, et le bout du tuyau de la pompe à essence qui avait été tiré. Mais le bateau n'avait pas coulé. Le moteur n'avait sans doute pas tourné suffisamment longtemps. Il n'est plus question de coïncidence. L'appartement de Björn a brûlé le jour même où Viola a été assassinée. Et si le bateau n'avait pas été abandonné, le réservoir à essence aurait explosé. Puis, le meurtrier tente de provoquer une explosion au gaz dans l'appartement de Pénélope. L'appartement de Björn, le bateau, l'appartement de Pénélope.
Ils cherchent quelque chose qu'ils ont à leur possession. Il a commencé par fouiller l'appartement de Björn, et comme il n'a pas déniché ce qu'il y cherchait, il l'a incendié et s'est mis en quête du bateau. Une fois le bateau examiné, n'ayant rien trouvé, il a forcé Viola à lui parler et, face à son silence, il s'est rendu à l'appartement de Pénélope.
Yona enfile une paire de gants de protection qu'il a extirpée d'une boîte en carton, avance jusqu'à la bibliothèque et observe la fine couche de poussière devant le dos des livres. Il constate qu'il n'y en a plus devant certains d'entre eux, ce qui indique qu'ils ont été manipulés au cours des dernières semaines.
« Je ne veux pas de toi ici !» dit Saga Bauer derrière lui. « C'est mon enquête !»«
Je m'en vais bientôt. Il faut juste que je trouve quelque chose !» répond Yona à voix basse.
« 5 minutes !»
Il se retourne.
« Est-ce que vous pouvez photographier les livres ?»«
C'est déjà fait !» répond-elle d'un ton bref. en biais, vu d'en haut, de façon à capter la poussière, dit-il d'un air impassible.
Comprenant ce qu'il veut, elle saisit sans broncher l'appareil photo d'un des techniciens et photographie toutes les étagères qu'elle arrive à atteindre, puis lui dit qu'il peut désormais examiner les livres sur les 5 étagères du bas. Yona s'empare du Capital de Karl Marx, le feuillette, et constate qu'il est abondamment surligné et annoté. Il inspecte le vide laissé dans la rangée. Il n'y a rien de particulier. Il remet le livre en place. Il parcourt l'étagère des yeux et y aperçoit une monographie sur Ulrich Meinhof, une anthologie fatiguée intitulée « Textes politiques clés de la cause féminine », ainsi que l'œuvre complète de Bertolt Brecht. Sur la deuxième étagère, il se rend soudain compte que 3 livres ont été déplacés récemment. Il n'y a pas de poussière devant eux. La stratégie des antilopes, témoignage sur le génocide au Rwanda, le recueil de poèmes « Cien sonetos de amor » de Pablo Neruda et les racines de la biologie raciale suédoise dans l'histoire des idées. Yona les feuillette un par un, et lorsqu'il ouvre les racines de la biologie raciale suédoise dans l'histoire des idées, une photographie tombe du livre. Il la ramasse. Il s'agit d'une photo en noir et blanc représentant une fille à l'air grave portant des tresses serrées. Il reconnaît immédiatement Claudia Fernandez. Elle ne doit pas avoir plus de 15 ans, et la ressemblance avec ses filles est frappante. Qui glisserait une photo de sa mère dans un livre sur la biologie raciale ? Se demande-t-il en retournant la photo. Au dos de celle-ci, quelqu'un a écrit au crayon « No estes leros, demi, un solo dia ». Ce doit être un vers tiré d'un poème. « Ne sois pas un seul jour loin de moi ». Yona saisit à nouveau le recueil de Neruda, tourne les pages une à une et retrouve rapidement la strophe correspondante. « No estes leros demi un solo dia. Por qué como? Por qué? No sé decirlo. Es largo el día. Y te estaré esperando como en las estaciones cuando, en alguna parte, se durmieron los trenes. » Cette photo aurait dû se trouver ici dans le livre de Neruda. C'est sa place. Si le meurtrier avait cherché quelque chose dans les livres, la photo aurait dû tomber. Il se tient là, pense Yona. Il inspecte la poussière sur les étagères, comme je viens de le faire. Il feuillette rapidement les livres qui ont été manipulés ces dernières semaines. Puis, le meurtrier découvre qu'une photo s'est échappée d'un livre et gît à terre. Il veut la remettre en place, mais se trompe de livre. Yona ferme les yeux. C'est ce qui a dû se passer. Le tueur à gages a fouillé dans les livres. S'il sait ce qu'il cherche, cela signifie que l'objet en question est assez fin pour être dissimulé entre les pages d'un livre. Qu'est-ce que cela pourrait être? Une lettre ou un testament? Une photo? Un aveu? Peut-être un CD ou un DVD? Une carte mémoire ou une carte SIM.